Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux nouvelles, la une de votre édition bilingue d'information.
In compliance with the head of state's directive to update agriculture in Cameroon, the government has handed over a huge consignment of heavy agricultural machinery and spare parts to the National Center for Studies and Experimentation in Agricultural Mechanization, CENIMA. Prime Minister Joseph Dion Nguté handed the consignment today in Yaoundé.
Agriculture, moisson abondante pour le CENIMA dans le champ de coopération entre le Cameroun et l'Inde. Le Centre national d'études et d'expérimentation agricole dispose.
Thanks. It was implemented within a context characterized by several factors, including geo-economic fragmentation caused by ongoing armed conflicts, tighter monetary policies, and extreme weather events at a global level. Domestically, economic activity vitality was witnessed despite inflationary pressures and input supply challenges. Real GDP growth was estimated at 3.9%, an increase of 0.3% compared with 2022. This growth was driven by the performance of the non-oil sector. The bill on local taxation seeks to reform the current legal framework of December 2009, a significant number of whose provisions are considered obsolete. It also aims at strengthening the financial autonomy of regional and local authorities so as to better meet the requirements of the Code of Regional and Local Authorities. The successful completion of this reform will enable tax administrations and local authorities to pool their organizational and procedural efforts. It would also broaden the tax base and diversify sustainable funding sources of local communities. Another draft law put before Parliament today for consideration is that to organize the civil registration system in Cameroon, addressing the gaps and flaws of the June 1981 ordinance, specifically dealing with the declaration and registration of vital events. The process of drawing up civil status certificates, judicial declaration procedures, among others. These proposed bills, including seven others, will be scrutinized at the level of general committees and then debated upon by the entire House in the days ahead.
Toujours au Parlement, Sénat, le Sénat rend hommage à l'un de ses membres, sénateur du Nord-Ouest, Karl Moses Mbofung, décédé le 13 septembre dernier de suite de maladie. Les sénateurs, amis et famille ont souligné les qualités de cet homme de science au cours d'une cérémonie sobre, marquée par l'éloge funèbre du vice-président du Sénat, Mfor Ntabetando. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Modernisation de l'appareil de production agricole camerounais. Un demi-millier d'engins agricoles rétrocédés au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CENIMA. Au cours de la cérémonie de rétrocession, présidée à Yaoundé en mi-journée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté a demandé aux dirigeants de la structure de mettre en place une stratégie efficace et offensive de déploiement de ces équipements dans divers bassins de production au Cameroun. L'objectif étant de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Paul Biya, axée sur la revitalisation et la concrétisation du plan agro-pastoral du Cameroun. Laurentine Bocono reportage.
La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Qui ne se souvient pas de cette exhortation du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse camerounaise? C'était le 10 février 2016, en amont de cet appel à cultiver son jardin, une usine d'assemblage des engins et des montages des tracteurs avait vu le jour en 2011 à Ebolova lors du comice agro-pastoral. Dans ce sillage, la convention signée ce mercredi entre le ministère de l'économie et la direction générale du CENIMA porte sur 116 engins lourds, 150 engins roulants, 239 tracteurs, des moissonneuses, des piqueuses de manioc avec un jet de pièces de rechange. Ainsi bien armée, la directrice générale du cinéma, Madame Bandé, Baté André Caroline, n'a eu qu'un seul mot sur ses lèvres. Merci. Merci au chef de l'État et à son gouvernement. Alamine Ousmane, mais ministre de l'économie, a présenté un inventaire exhaustif du précieux matériel mis à disposition. Il a recommandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage pour atteindre à leur niveau les objectifs de la SND 30, tels que consignés dans son volet secteur agricole.
En effet, prescription a été faite au gouvernement de développer une agriculture de seconde génération et susceptible de porter avec vigueur la transformation structurelle de l'économie nationale qui est le premier pilier du document de stratégie nationale de développement, la SND 30, couvrant la période 2020-2030.
Enfin, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gauté, dans son discours de circonstance, a salué le rayonnement de la coopération avec le partenaire Exim Bank India.
Grâce à la coopération avec l'Inde, une enveloppe substantielle a été investie dans cet ambitieux projet qui, j'en suis convaincu, va radicalement transformer le paysage de notre secteur agricole. Dans cette logique, je demande aux dirigeants de cette entreprise publique de mettre en place une stratégie efficace et offensive de déploiement de ces équipements dans les divers bassins de production de notre pays, afin que tous les agriculteurs et toutes les agro-industries puissent y avoir accès à des conditions incitatives garantissant en tout état de cause leur rentabilité ainsi que leur viabilité.
Désormais, à chacun son poste de travail. L'agriculteur dans son champ, le cinéma aux commandes des engins. Alors seulement, le Cameroun sera une force de progrès sur la route de son émergence.
A consignment of heavy agricultural machinery and spare parts acquired by the government of Cameroon to boost agricultural production in the country has been handed over to the National Center for Studies and Experimentation in Agricultural Mechanization, CINEMA, for exploitation. This was during a retrocession ceremony which the Prime Minister Head of Government chaired today in Yaoundé. Joseph Dion Gauté prescribed the equipment be made available to public and private agro-businesses to help boost national production and reduce imports. Star Building correspondent Christian Chatham.
The machines, which have been retroceded to the National Center for Studies and Experimentation in Agricultural Mechanization, include tractors, bulldozers, harvesters, excavators, and a variety of other vehicles and equipment needed to open up production basins, clear and stabilize farmlands, and transport crops, seedlings, and other equipment. The machines were acquired by the government of Cameroon under two projects and through cooperation with India at the cost of about $80 billion. During the retrocession ceremony, attended by members of government, directors general, and heads of agro-industries, the machines were described as crucial to Cameroon's drive towards import substitution and agricultural mutation. The Director General of CINEMA, André Caroline Mebande Baté, said the machines put her center in a strong position to help boost agricultural production in Cameroon. The Minister of the Economy, Alamine Ousmane Mey, said the acquisition of the machines and their retrocession to CINEMA aim at boosting food self-sufficiency in the country. The Prime Minister Head of Government, Joseph Dion Gauté, in his keynote, thanked the Indian High Commissioner to Cameroon for his country's support towards the materialization of the projects. He noted that the machines are a result of President Paul Biya's promise to create a tractor assembly plant in Ebolova. Joseph Dion Gauté invited the GM of CINEMA to put in place an aggressive and efficient strategy to ensure that agro-industries like Semri, CDC, and private promoters get access to the machines under favorable conditions. He invited business persons, rural actors, and farmers' associations to make maximum use of the machines, which he says have been put at their disposal by the President of the Republic. Christian Chiatam, CRTV, The Star Building.
et d'autres fleurons de la coopération sont également à souligner dans les faits majeurs du jour. Coopération Cameroun-France, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kecha-Cortès, et l'ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence Thierry Marchand, sont en visite de travail dans la région du Nord. Ils viennent officiellement de mettre en service 3 espaces publics construits dans le cadre du programme C2D Urbain Capital Régional. Nous y reviendrons. C'est parti pour la 3e édition du Forum économique de Douala. Et le carrefour des opportunités de développement de la capitale économique charrie plusieurs innovations cette année, nous dit Chris Patricia Lulunga de Sirtivi Littoral.
Le caractère public du débat sur le développement de la capitale économique est monté en puissance au cours des échanges qui ont meublé la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum économique de Douala. Les opérateurs économiques ont soulevé les problématiques de développement de la ville, notamment la logistique de transport et de l'immobilier. Olivier Kingemoli, coordonnateur général du Forum économique de Douala.
Le maire de la ville qui s'est senti interpellé sur ces problématiques et qui a donné des réponses qui parfois ne dépendent pas de la ville, mais qui appellent au demeurant une synergie entre les différents acteurs pour que effectivement la ville que nous voulons, pour une meilleure mobilité des affaires, pour une meilleure appropriation des politiques publiques, soit vraiment cette ville-là que nous voulons.
Pour résoudre cette problématique de l'immobilier, la communauté urbaine de Douala a déjà commencé à trouver des solutions. Docteur Roger Mbassandine, maire de la ville de Douala.
Nous avons acquis quelques espaces fonciers d'un petit hectare du côté de Apanor que nous allons mettre à disposition de promoteurs immobiliers qui veulent construire. Voilà ce que la mairie peut faire, acquérir des espaces et travailler en partenariat avec les promoteurs immobiliers pour qu'eux puissent offrir des solutions de logement.
Pour sa part, le gouverneur de la région du littoral a invité les populations à plus de citoyenneté pour une capitale économique plus développée. Douala, Chris Patricia Lulunga, CRTV.
Vous écoutez le 17-18 sur le poste national alors qu'il est 17h18 dans la mémé, où 15 ex-combattants sécessionnistes du département déposent les armes. Ils ont été reçus par le préfet Chamberlain Tuandong. Ce dernier, tout en les félicitant, les a invités à collaborer davantage avec les autorités locales pour une meilleure cohésion sociale. Le reportage d'Elisabeth Nathalisson.
Ils ont décidé de tourner le dos à la barbarie et se disent prêts à saisir la main tendue de paix du chef de l'État. Ils sont plus d'une dizaine ex-séparatistes avec au compteur plusieurs cas d'agression, d'assassinat et autres. Chamberlain Tuandong est préfet de la Mémé.
Ce sont des enfants actuellement travailleurs qui vont reprendre leur vie normale. Le cacao est devenu cher. Ils vont rentrer dans les champs pour que
ces ex-combattants qui, après avoir exprimé leurs regrets à l'endroit des populations du département de la Mémé en particulier et du Cameroun tout entier, ont pris l'engagement de convaincre certains de leurs frères encore dans les brousses afin de contribuer également à l'émergence de notre pays. Elisabeth Nathalisson, Kumba CRTV.
Agression à bord de taxi à Yaoundé, un gang est aux arrêts. Les 3 suspects qui opéraient dans plusieurs quartiers de la ville ont été interpellés le 13 octobre dernier par les éléments de la brigade anti-gang du commissariat central numéro 1 de la capitale. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi. Voici le récit des faits avec Ibrahim Mohamed Abassi.
Spécialisés dans les agressions à bord de taxi, ces présumés gangs constitués de 3 membres, tous des repris de justice, opèrent dans la ville de Yaoundé depuis 4 ans environ. À l'heure actif, une centaine de cas d'agression. Leur dernier forfait remonte à la nuit du 13 octobre 2024 au quartier Longkak. Commissaire divisionnaire Thierry Medou, commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé.
Ils ont commencé leur activité en lui foutant la tête au bas du siège, ce qui a alerté mes collaborateurs de la brigade anti-gang qui sillonnaient le secteur. Ils ont été aidés par les mototaximens. Nous sommes rendus compte qu'il s'agissait là du gang qui sévissait dans la zone. Beaucoup de gens qui ont été agressés et qui ont été éjectés dans la ruelle derrière le Hilton Hotel, dans la ruelle derrière le ministère. Et puis, paf, fois donc, du côté du lac.
Pour lutter efficacement contre ces agressions, les populations sont appelées à collaborer avec les forces de sécurité.
Si nous sommes informés, nous pouvons réaliser des résultats encore plus grands. Ça fait 2 gangs d'agresseurs dans les taxis que nous avons sortis du circuit. Mais il y a encore des cas d'agression. Ça veut dire qu'il y a d'autres gangs qui continuent à sévir. Nous avons besoin d'informations pour aider les populations à être encore plus en sécurité.
Après exploitation, ces agresseurs, qui sont passés aux aveux complets, seront mis à la disposition de la justice afin de répondre de leurs forfaits.
Catastrophe de la falaise de Tchan, 12 morts connus et de nombreux disparus encore sous les décombres. Nous vous proposons ce mercredi soir le témoignage émouvant de l'un des rescapés de ce drame. Clifford Mouna est son nom, un conducteur d'engin lourd tombé dans le piège de la terre au moment du deuxième éboulement. Son témoignage recueilli par Emmanuel Koloko.
Il aime si bien son travail que même la mort ne l'effraie pas. Mouna Clifford est un miraculé dans le sens propre du terme. Le tractopelle au fond du ravin était conduit par lui. Pour revenir au premier jour, le jeune homme faisait partie de ceux qui déblayaient la route grâce à ses engins lourds.
The first landslide occurred around 9:30.
Le premier éboulement est survenu aux environs de 9h30. Quand nous sommes arrivés, les machines de la commune travaillaient déjà. Nous avons creusé ensemble pour au moins 3 heures. Aux environs de 15 heures, j'ai vu comment la terre descendait vers moi. J'ai essayé d'esquiver avec mon engin, mais les mots de terre l'ont jeté au sol. Je me suis accroché au capot pour réussir à m'en sortir en courant comme je pouvais.
Mouna Clifford, conducteur d'engins lourds, n'est pas qu'un travailleur, il est aussi un humaniste. Malgré le traumatisme, il est revenu sur le site de la catastrophe pour aider.
Tous les jours, nous essayons de creuser pour essayer de retirer les dépouilles enfouies. Je me vois face à cela et Dieu m'a aidé.
Beaucoup n'ont pas eu la chance de survivre comme Mouna Clifford. Ce conducteur de la pelle excavatrice qui travaille de pied ferme avec les sapeurs-pompiers pour retrouver les dépouilles enfouies sous les décombres. Chang, Emmanuel Koloko, SIA TV.
Et au sujet des catastrophes naturelles, les inondations enregistrées dans la région de l'extrême nord récemment continuent de susciter des réactions des partenaires du Cameroun. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient de faire un don de 300 kits d'hygiène aux femmes et aux filles sinistrées. Des dons réceptionnés à Maroua par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abénandoua. Mal Moussa, le Doublaise, SIA TV Extrême Nord.
Les inondations qui sévissent dans l'extrême nord ont rendu les femmes et les filles plus vulnérables au point de manquer des produits hygiéniques indispensables à la préservation de leur dignité. Et fidèle à sa tradition, celle d'apporter une assistance à cette catégorie sociale, le Fonds des Nations Unies pour la population a opté mettre à disposition ce dont elles ont le plus besoin dans le contexte actuel. Dr Senen Hunton, directeur régional UNFPA, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Et notre mandat, c'est de nous assurer que les femmes continuent à accoucher sans perdre la vie, que les besoins de planification familiale puissent continuer et qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes. Et donc, c'est pour ça que nous avons accompagné le gouvernement pour apporter ces services à ces populations sinistrées.
Pour le gouvernement camerounais, cette action vient renforcer la chaîne des solidarités autour des populations en détresse dans la région de l'extrême nord. Professeur Marie-Thérèse Abénandoua, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille.
C'est un élan de cœur de solidarité vis-à-vis de ces populations. Leur exprimer notre sympathie, leur dire que nous partageons leur peine, leur douleur, leur souffrance.
Pour le maire de la ville de Maroua, le docteur Sali Babani, les victimes des inondations dans l'extrême nord sont touchées par cette marque d'attention du gouvernement et de ses partenaires, dont le Fonds des Nations Unies pour la population. Marwa Malmoussa, le Doublaise, CR TV.
Et Maureen, toujours en faveur des populations vulnérables, l'on recense les bons points du projet filet sociaux implémenté au Cameroun avec le concours de la Banque mondiale.
At least 25% of Cameroonian households have been redeemed from poverty thanks to the adaptative social safety net and economic inclusion project that has been underway across all 10 regions of the country since 2013. The information was made public by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Usman May, while opening a two-day experience sharing and strategic planning meeting, regrouping World Bank's partners and other key stakeholders in Yaoundé. Patience Wingo tells us more.
The World Bank and the government of Cameroon have jointly worked to alleviate poverty for over 10 million people since the launch of the Social Safety Net project in 2013. The director of World Bank operations in Cameroon, Sheikh Kante, has praised the country's commitment to improving the livelihoods of vulnerable populations, especially in light of recent crisis, food insecurity, and the growing threat of climate change.
The country's ambition to become an emerging economy needs to go alongside a national system that makes sure nobody is left behind. There is a system to take care of the vulnerable so that when catastrophes happen, crisis, the country can take care of it.
The two-day strategic workshop will create a comprehensive roadmap for the continued success of the project in Cameroon. Chairperson of the Benghazi Income Support Program in Pakistan, Mavi Memon, says Cameroon has the potential to elevate the social safety net project to the next level.
The National Socioeconomic Registry that Pakistan has done exceptionally well, and we are, of course, the largest South Asian program with 9 million beneficiaries with a budget line of $1.7 billion. The targeting is right. Everything follows from there.
In his opening remarks, Minister Alamin Usman May stated that between 2023 and 2028, the government will rely on the social safety net project as a key strategy to reduce the country's poverty rate, which currently stands at 37.7%.
The social protection of vulnerable population in Cameroon remains a key concern, closely monitored through the recommendations outlined in the 2020-2030 National Strategic Document. In the following excerpt of an interview, the Minister of Social Affairs, Pauline Irengene, explains how the government, through her ministry, will continue to improve the living standards of socially vulnerable individuals. She spoke to our reporter, Patience Wingo.
This program is very important to improve the well-being of socially vulnerable persons in Cameroon. First of all, we are in charge of the social register that will give us the cartography of who is vulnerable and who is not. It will better orientate the interventions of this vulnerability, because sometimes when we have the funds, we can just use it anyhow. But with this social unified register, we'll orient the intervention. And another thing is that we'll have an institutional context real clear. It's very important. So this workshop is important for us because it permits us to share the best practices of other countries who are implementing this program.
The Minister of Social Affairs, Pauline Irengene, talking to our reporter, Patience Wingo. The Minister of Housing and Urban Development has prescribed a judicious use of facilities funded under the C2D Regional Capital Program in Garoua. Celestine Quecha-Cortez is on a working visit in Garoua, where she is expected to inaugurate some facilities alongside the French ambassador to Cameroon. Maimouna Njoya files in the following report from Garoua.
A little before 2 p.m. this Wednesday, the Minister of Housing and Urban Development was welcomed by the Governor of the North Region, the City Mayor of Garoua, Dende community in Garoua, and a big delegation sent by the Lamido, amongst other people. With a lot of enthusiasm, the population has acclaimed the structural changes effected thanks to the C2D Regional Capital Program funded by the French Development Agency. Amongst them, we have the eco-friendly space known as Parc Boisé of Garoua, which offers a conducive atmosphere for sports, entertainment, and quality family outings. While inaugurating the park, Minister Celestine Quecha-Cortez enjoined the population to make adequate use of the facility, which projects an alluring and modern facet of the city of Garoua. In a few minutes ahead, the minister, alongside the French ambassador to Cameroon, His Excellency Thierry Marchand, will inaugurate some newly constructed shops at the Yelwa Market, which is expected to contribute in checking urban disorder and the anarchical use of commercial spaces. The second lap of the minister's visit in Garoua will take her to some renovated sites and the Garoua Mosque this Thursday. Maimouna Njoya reporting from Garoua for CRTV News.
from Garowa to the West region, where a survivor of the Chang landslide incident has described his rescue as miraculous, indicating that God gave him another opportunity to help in the operation to find the victims of the natural disaster. Muna Clifford, one of the drivers of the heavy-duty vehicles being used to clear the rubble, who was himself victim of the second landslide, is presently involved in the operations to retrieve those still trapped. Details with Eric Langmia Wofo.
When the first landslide occurred, Mona Clifford was one of those mobilized to clear off the massive earth, rocks and soil that had covered the Sanchun Chang stretch. His efforts were yielding fruits when the second landslide, described as huge, overturned and completely covered the excavator.
I walked for about 3 hours. The ground was too much. Around 3 o'clock before the heavy landslide occurred, I saw how the ground was coming. So I tried to turn my machine to escape. The gang already pulled the machine down, so I succeeded in coming out to this cabin, the other machine. So I was running on the ground, running, so that's how I escaped.
Mona was taken to the hospital, and his zeal to retrieve the bodies of those he saw buried by the landslide caused him to overcome his fears.
Work is going, I'm using another machine. They have tried to remove about 11 cops. Nobody motivated me to come and do it by my own will, to save the people that lost their life. Every day we try to dig to remove the people that are in. We work for long, so can I really explain? I fear that because left to me, I was among the people, but Almighty God saved me. So when I see a corpse, I can't feel myself. But it's God. I give all thanks to God because I didn't know I would make it.
Mona Clifford today works closely with the Army Rescue Unit to search for the bodies of those still under the wreckage. Eric Langmia Wofo, CRTV News.
You are listening to the 5 to 6 p.m. A gang of three alleged robbers known for assaulting taxi passengers and stealing their valuables in Yaoundé has been presented to the press in Yaoundé today. The suspects were presented by the Commissioner of Central Police Station No. 1 in Yaoundé, Thierry Medou, who urged the population to stay vigilant. He also encouraged citizens to cooperate with law enforcement officers to help capture other suspects who are still at large. Hortensia Ngam reports.
In recent months, Central Police Station No. 1 in Yaoundé received complaints from residents who reported being assaulted and robbed in taxis. According to Police Commissioner Thierry Medou, victims recounted being violently robbed and forced out of taxis at various locations across the city. In response, the police heightened security measures, leading to a breakthrough on October 13th. Officers, with assistance from motorbike riders, identified and pursued a suspicious taxi with its rooftop light turned off. After a brief chase, they successfully intercepted the vehicle, apprehending three suspects believed to be behind the series of robberies.
The activity of our anti-gang brigade led us to catch those criminals that have been involved in taxi attacks for 4 years. That means that you have more than 100 victims.
Police Commissioner Thierry Medou emphasized the importance of public cooperation in fighting crime and urged residents to stay vigilant, especially as several other suspects remain at large.
Some 63 actors in the public contract sector in the North region are being schooled on best practices related to the award of contracts. The actors are being equipped with the necessary tools for the platform codenamed Cameroon Online E-Procurement System, COLEPS. The training is being supervised by the head of missions, Mr. Nsegbe Joseph René, who is in charge of the platform for public contracts. Details with Mercy Ashu Nyabuyu.
The digital revolution puts actors in the public contract sector a step ahead and will allow them maneuver their transactions online using the e-procurement system. Put in place by the Minister of Public Contracts, users of this tool are expected to master the platform provisions. Mr. Nsegbe Joseph René is in charge of missions. The goal of this training is to sensitize and equip the actors in the use of the platform for the acquisition of contracts online, better known by its code name COLEPSE, which signifies the Cameroon Online E-Procurement System. The main change is the movement from paperwork to electronic contracts. They are obtained online, launched online, and subscribers will apply online, and the rest of the procedures, right down to who wins the contract, will be done online. The new platform also provides subscribers the opportunity to protect or secure their data once registration is done on the platform. Other advantages of the e-procurement system to facilitate the treatment of files include the tracking of different construction projects and engagements with different project holders. Mercy Ashunyabi, CLTV News, Garowa.
Over in the Northwest region, the Vice Chancellor of the University of Bamenda, Professor Theresia Nko Akenji, has described ethics and integrity as crucial to the proper functioning of an academic institution. She was speaking in Bamenda during a capacity building seminar on addressing corruption and in university governance. Marianne Lantum reports from Bamenda.
The presentations that were focused on understanding ethics and integrity in academia, corruption in the university governance, amongst others, caught the attention of over 100 participants in the Bambili campus. The Vice Chancellor of the University of Bamenda, Professor Theresia Kuo Akenji, outlines it was geared towards curbing acts of corruption within the school milieu.
We are living very satisfied because we have had a better understanding of the role of integrity and ethics in university governance. These are very important values to fight corruption.
One of the attendees, Professor Fidelis Chongwa, talks about mastery of techniques to mitigate corruption in the school campus.
We have learned about the different ways corruption can manifest itself in a university environment, different ways of fighting corruption, the importance of the whistleblower, the importance of being people, men and women of integrity.
There are also moves by the university authorities to reduce academic corruption, such as plagiarism, examination malpractices, and discrimination. Miriam Lantum, CLTV News, Bamenda.
38 minutes past 5 p.m. Larissa, the population is being sensitized to the dangers of pneumonia.
Les spécialistes restent toujours autant préoccupés par les dégâts causés par la pneumonie. L'on estime à plus de 800 000 le nombre d'enfants qui en meurent chaque année, dont 190 000 nouveaux-nés. Le corps médical encourage les parents à faire vacciner les enfants et à consulter un pédiatre dès les premiers symptômes. Alors, quelles sont ces manifestations? Réponse avec le docteur Aninga Motazeux, pédiatre au centre hospitalier des Sosses.
La pneumonie est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. C'est une infection grave car elle est susceptible d'entraîner des décès. Elle est la première cause de mortalité chez l'enfant, avec des chiffres allant à 14% chez les enfants de moins de 5 ans. Elle peut être causée par plusieurs agents pathogènes, notamment des bactéries, des virus ou des champignons. Le nouveau-né atteint de pneumonie est pris en charge dans les unités de néonatologie et la prise en charge peut parfois nécessiter la mise sous oxygène, le recours aux antibiotiques. Les principales manifestations de la pneumonie sont la toux et ou des difficultés à respirer, souvent associées à de la fièvre, mais parfois on ne retrouve pas de fièvre. L'un des signes importants de la pneumonie est la rapidité de la respiration, avec parfois d'autres signes comme une dépression au niveau de la partie inférieure du thorax. D'autres symptômes non spécifiques de la pneumonie peuvent être associés, comme le refus de s'alimenter ou de boire, une perte de conscience et parfois des convulsions. La vaccination joue un rôle essentiel dans la prévention.
Les activités liées à la 15e édition des matinées nationales de prière pour le Cameroun sont sur les rails. La 15e édition proprement dite aura lieu du 16 au 20 1 novembre prochain à Yaoundé sous le thème « Dieu, l'espérance qui transcende les crises ». Et c'est un déjeuner de presse qui en a planté le décor ce mercredi sous la coordination du président de la Cameroon National Prayer Breakfast, le docteur Jean-Libom Lilikeng, pour qui l'espérance tant souhaitée au Cameroun passe par le recours à Dieu. Je vous propose de l'écouter.
L'éloge funèbre du vice-président du Sénat a donné à voir les qualités du défunt sénateur. Pour Tif Tabetando, le professeur Karl Moses Bofung, bien qu'étant seulement à sa deuxième année au Sénat, avait déjà montré ses capacités d'homme de science au sein de la Commission des affaires économiques. Dans le livre des condoléances, ses collègues sénateurs regrettent le départ d'un homme calme, méthodique et rigoureux. Gafferson Emmanuel, sénateur.
Toutes nos excuses pour cette confusion. Vous écoutiez plutôt Mathieu Kemgo, sur lequel nous reviendrons dans quelques secondes. Il est temps d'écouter le révérend Jean-Libom Lilikeng.
C'est l'espérance qui transcende les crises. C'est qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir qui marche ou qui même ne marche pas, il y a à se recourir à Dieu pour que tout cela se résolve. C'est tout ce que nous voulons dire, qu'il y a un espoir certain et qui est sur Dieu. L'avenir d'un pays ne se construit pas seulement sur l'intelligence humaine, mais se construit sur les projections que Dieu fait. Il promet la paix et la prospérité pour ceux qui s'attendent à lui.
Vous l'écoutiez il y a un moment, le Sénat rend hommage à l'un de ses membres, sénateur du Nord-Ouest, Karl Moses Mbofung, décédé le 13 septembre dernier des suites de maladie. Sénateurs, amis et familles ont souligné les qualités de cet homme de science au cours d'une cérémonie sobre, marquée par l'éloge funèbre du vice-président du Sénat, Fort Abitando. Le reportage de Mathieu Kemgo.
L'éloge funèbre du vice-président du Sénat a donné à voir les qualités du défunt sénateur. Pour Tif Tabetando, le professeur Karl Moses Bofung, bien qu'étant seulement à sa deuxième année au Sénat, avait déjà montré ses capacités d'homme de science au sein de la Commission des affaires économiques. Dans le livre des condoléances, ses collègues sénateurs regrettent le départ d'un homme calme, méthodique et rigoureux. Gafferson Emmanuel, sénateur.
Il était très motivé. Au Sénat, il me disait que bon, comme lui, c'est un professeur et tout cela, il s'intéressait beaucoup plus à tous les problèmes concernant l'éducation.
Ses amis ont encore en mémoire le biochimiste qui avait le souci de transmettre le savoir. Honorable Ndingou Moussa, député.
Tout le temps, il avait un esprit, allez apprendre dans votre cahier, allez faire votre devoir. Voilà son nom qui a été mis, même à l'école. Allez faire votre devoir. Ça veut dire que c'est un monsieur qui aimait la recherche, qui aime que les gens travaillent bien pour avoir ce qu'ils méritent.
Les enfants et la famille n'oublieront pas le papa toujours disponible. Gordon Bofung, représentant de la famille.
C'était un papa exceptionnel. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour garder ses enfants ensemble, ses neveux. Et il encourageait toujours tout le monde à continuer honnêtement dans la voie du Seigneur.
Inconsolable, son épouse Fanta n'a pu retenir ses larmes au moment de quitter le palais des congrès. Un espace où son défunt mari faisait ses premiers pas de sénateur suite à son élection à la Chambre haute du Parlement en mars 2023. Le couronnement d'une carrière politique entamée en 1986 au sein du RDPC. Karl Moses Bofung sera inhumé dans son village Bamessindop où il voit le jour le 17 mars 1950.
The Senate has paid homage to one of theirs, Senator Karl Moses Bofung, who died last September following an illness during the solemn ceremony at the Senate Hemicycle, chaired by Senate Vice President His Majesty Mfo Tabetando Ndiempso. The valuable contributions made by the late parliamentarian to the Upper House of Parliament were highlighted. The Cameroon National Prayer Breakfast has announced its 15th annual gathering set for November 16 to 21, 2024 in Yaoundé. The year's theme, God, the Hope That Transcends Crisis, calls on Cameroonians to turn to faith for resilience and unity as the country faces significant social, economic and political challenges. At the press breakfast in Yaoundé, the president of CNPB, Reverend Dr. Jean-Libom Lilikeng, highlighted that the event will feature several activities aimed at fostering hope and a more unified Cameroon. Rita Yoesembam.
This year's Cameroon National Prayer Breakfast promises to be a profound moment of prayer and reflection for a country in need of hope. Speaking at the press breakfast this morning, the CNPB president highlighted the challenges facing Cameroon from rising inflation and political tensions to youth disenfranchisement and ongoing security issues.
When we pray to God, He answers. So we want all the Cameroonians to be faithful to God and to see how God changed their situation.
Reverend Dr. Jean-Libom Liligeng emphasized the need for prayer to overcome these crises, expressing that only through divine guidance can Cameroon's leaders restore faith in the nation's future.
On Saturday 16, we'll have the prayer walk. We'll walk in the street of Yaoundé praying. And then on Monday 18 and Tuesday 19, we'll be in the Care and Hope Center for a seminar. And then on the Wednesday 20, we'll be in Mairie de Tsinga to pray for all the elected people in Parliament, the regional councillor. And then we'll end on Thursday at Hilton Hotel at the prayer breakfast.
Through this action, the Cameroon National Prayer Breakfast hopes to inspire positive change and bring Cameroonians closer to a vision of peace and prosperity.
This press release before the magazine segment of the 5 to 6 p.m., the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guinea, will preside over the official ceremony to launch the present to launch and present the Child Protection Cases Management Information System in Cameroon on Thursday, 14 November 2024 at 10 a.m. at the Jega Palace Hotel in Yaoundé. The aim of these meetings is to inform the national and international community about the effective deployment of SPIMS Plus, a tool for collecting and protecting data on the management of child protection cases in Cameroon.
Écoutez le 17-18, toute l'actu en direct.
La page magazine du 17-18 avec tout d'abord du sport. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les Lions indomptables ont concédé un nul vierge cet après-midi en match de la cinquième journée contre la Namibie à Johannesburg. Si les poulains de Marc Brice ont manqué d'aligner une nouvelle victoire dans cette campagne, ils ont néanmoins montré leur capacité à résister face à l'adversité. Que retenir de ce match Namibie-Cameroun dont l'enjeu était, on rappelle, le leadership du groupe J? Esquisse de réponse avec Charlie Mérinos Liatou, l'un de nos envoyés spéciaux à Johannesburg.
Le Cameroun poursuit sa série d'invincibilité sur la route qui mène à la CAN. Cet après-midi encore, les poulains de Marc Brice ont montré leur détermination à défendre avec honneur les couleurs nationales, malgré toutes sortes de difficultés. Face à la Namibie, il y avait un objectif de victoire. Sur le terrain, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont montré de l'envie, avec une domination certaine dans le jeu et de nombreuses occasions, hélas non concluantes. Le Cameroun est arrivé dans ce match sans la moindre préparation, ce qui peut expliquer ses défaillances, ses errements même ou des situations de danger dans sa défense et parfois sur des duels. Elle n'est pas passée inaperçue cette frayeur de la 58e minute avec une double balle sur le montant des buts d'André Onana. Où le coup de pied de Chalilulé Peter dont les accélérations ont souvent mis en difficulté la défense des Lions. Toutefois, le Cameroun repart de Johannesburg sans prendre de but, sans défaite également. Mais avec de nouveaux talents qui ont su se mettre en évidence. Kevin Koudou, Darlene Yongwa, Serge Soko, Guy Marcelin Kilama sont désormais dans l'antichambre du 11 entrant de Marc Brice. Les Lions indomptables n'ont pas gagné contre la Namibie, mais le Cameroun a montré qu'il a du caractère et des talents. La campagne des éliminatoires s'achève dans une semaine contre le Zimbabwe. Une belle occasion de terminer en toute beauté à la maison, dans la ferveur populaire. Johannesburg, Charlie Mérinos Liatou, CRTV.
The Indomitable Lions of Cameroon drew 1-1 with the Brave Warriors of Namibia in Johannesburg today in their fifth game in the campaign to the 2025 Africa Cup of Nations. Team Cameroon showed lots of character, though they failed to carry the day. For details, we go over to Johannesburg, where our special envoy, Simon Lyonga, is on standby.
A tight game for the Indomitable Lions, who were playing for the first time without three starters of the Mark Brice system since he took over, coupled with the inability to have a full team training session ahead of the game, and the effects were seen from the start of the game. Martin Ongla was almost lost in midfield. Ivan Neyu, in his comeback, was in the firebrand player for club, while the attacking duo of Vincent Boubacar and Frank Magri kept stepping on each other's heels. For the first time, coach Mark Brice made five substitutions, with some promising youngsters sent into the arena to begin their baby steps in top-notch football. Patrick Soko showed clear signs of a future striker for Cameroon, while Josh Nkudu clearly showed that he was a winger with a place in the Team Cameroon. Despite a huge edge over their opponents on the log of statistics, the Brave Warriors were the most dangerous, coming close to scoring on many occasions, actions that were either thwarted by the vigilance of Andre Onana or twice by the goalpost. At full-time, it was no goal on either side, with the coach blaming the slow gait of his team on administrative difficulties before the journey to South Africa, as well as a lack of adequate training with his entire team. The boys traveled back for perhaps a better preparation ahead of their last game in the campaign against the Warriors of Zimbabwe in Yaoundé. In the post-match presser, the coach was clear he has 4 days to prepare for that game, the last before they head to Morocco to be part of the Pan-African football movement for the 22nd time. For now, the team still tops Group J ahead of the game Zimbabwe versus Kenya. From Johannesburg, Simon Lyonga on special assignment for CRTV News.
La Namibie sauve son honneur en empochant son premier point de la compétition. Le Cameroun engrange un autre point et en compte à présent 11. En attendant le dernier match de la cinquième journée dans le groupe J de ses éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, vendredi prochain, c'est le statu quo au classement. Dites-vous, Fritz Bayamak.
Les positions ne changent pas dans ce groupe J des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mark Brice et ses garçons restent en tête du classement avec 11 points. Un point de plus, engrangé face à la Namibie cet après-midi. Les Lions et Notables gardent toutes les chances de rester leader du groupe au soir de la sixième journée et qui demeure jusqu'ici la seule équipe qualifiée de ce groupe. La Namibie reste scotchée à la quatrième place, dernière du groupe, mais les Brave Warriors réussissent à sauver l'honneur en prenant un point face au Cameroun. Leurs quatre premières rencontres se sont soldées par des défaites. Le Zimbabwe est à l'affût, au deuxième rang avec 8 points, et pourrait valider son ticket de qualification vendredi contre le Kenya. Il suffit pour cela d'un match nul ou d'une victoire. Même une défaite n'éliminerait pas les Warriors, mais les laisserait à portée de tir du Kenya, troisième du groupe avec 4 points. La dernière journée s'annoncerait ainsi explosive pour les deux adversaires, avec des batailles à distance. Le Zimbabwe viendra défier le Cameroun à Yaoundé et le Kenya accueillera la Namibie.
Le Cameroun conforte son invincibilité dans le groupe J avec un total de 11 points après le match nul enregistré cet après-midi, 0-0 face à la sélection namibienne. L'entraîneur de football Michel Kaham fait le premier décryptage de cette rencontre en tant qu'expert. Entretien au téléphone avec Didier Marius, c'est on dit.
Michel Kaham, bon après-midi.
Bonjour, chers auditeurs.
Namibie contre Cameroun. Cette quatrième confrontation se termine sur le score de 0-0. Les Lions indomptables conservent leur invincibilité.
Oui, en fait, c'est tout ce qu'on pourrait dire de ce match qui a été dans l'ensemble très pauvre. Je pense que c'était un match difficile à regarder, même ennuyeux à la limite. Donc, bien, on rentre avec le point de match nul, mais je pense que dans l'ensemble, on devrait faire peut-être mieux que cela.
Le Cameroun manque de dynamisme dans le jeu, notamment le milieu de terrain. Est-ce que l'absence des trois éléments clés peut justifier cela?
Ça justifie cela, mais pas seulement cela. Mais je pense aussi qu'on s'est rendu compte depuis la préparation qu'il y avait un petit relâchement. Les joueurs se retrouvent une tranche par-ci, une tranche par-là, problème de visa. Bref, il n'y avait pas une bonne organisation au départ. Et puis à l'arrivée, on retrouve exactement le désordre qu'il y a eu dans la préparation. Ce n'est pas dans cette logique-là qu'il faudrait absolument préparer un match de standing international. Je pense que les gardes ne sont même pas entraînés comme ils se devaient. Mais tout cela, ce n'est pas bien à voir. Et à l'arrivée, on a un pauvre spectacle qui expose les nouveaux joueurs que l'on a présentés. Parce qu'on ne peut pas là aujourd'hui dire que les remplacements qui ont été faits, juger même tel joueur par rapport à tel autre. Non, c'est vrai que l'absence des autres a pesé, mais les conditions dans lesquelles ils ont opéré n'étaient pas les meilleures. Donc, dans ce contour un peu désorganisé, c'est difficile de reconnaître les joueurs et c'est pour cela que le spectacle présenté était pas beau à voir du tout. Je pense qu'il faut absolument donner le respect du crédit à tout match, même si on est déjà qualifié. Tout le match doit être pris au sérieux, mais à la limite, en regardant cela, on peut se dire qu'il n'y a même pas eu de conférence d'avant-match. Et dans un stade vide aussi, tout cela donnait lieu à croire que c'était un match d'entraînement. Non, ce n'était pas un bon spectacle.
Est-ce que le voyage tardif peut être à l'origine de ce manque de mouvement dans le jeu des 11 et non pas du
parc? Mais bien sûr, mais attendez, on sait bien tout ce qu'il y a à faire. 3 jours avant un match, 2 jours avant un match, 1 jour avant un match, il y a des choses que l'on fait dans tous les clubs du monde entier pour que le joueur puisse avoir la réaction de la pièce sur le terrain. C'est de la science, le football. Et même si ce n'est pas exact, c'est de la science. Donc il y a des choses que l'on doit remettre en marche 3 jours au moins avant le match. Ce qu'on n'a pas fait. Et cela, donc, peut expliquer que les joueurs n'étaient pas aussi vite que cela et que ça donne le spectacle auquel on a assisté. Mais je dis, je le répète encore, les lions indomptables ont un nom. À chaque fois qu'ils se produisent, ils doivent se rapprocher du modèle que l'on connaît. Mais on a comme l'impression qu'à l'extérieur, on se relâche. C'est pas un match à l'extérieur où le spectacle est difficile à avaler. Alors que vous allez voir à Fandena, tout le monde est mobilisé. Pourquoi? Pourquoi à l'extérieur, il n'y a pas cette mobilisation-là? Au sein du groupe, même, on doit pouvoir se remobiliser pour dire qu'on va jouer à la hauteur des lions. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu embêtant.
Le Cameroun a réussi à donner un point à la Namibie.
Ben oui, l'unique point, alors, ça veut tout dire. Un club que tout le monde a battu, et nous, on arrive à leur donner un point. Ça veut tout dire. Vous avez tout dit là-dessus. Et c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. On n'a pas le droit de se relâcher en sélection nationale. Le devoir, quand on porte le maillot de Lyon, quand on joue un match, de se donner à fond. Bon, là, vous avez l'impression d'un match pratiquement amical. Non.
Michel Kaham, entraîneur de football, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV.
Merci bien.
À très bientôt.
Ok, en espérant que les Lions jouent mieux. Allez les Lions.
Now news out of Cameroon, several candidates from the MPS, the party of former Chadian President Idriss Déby, and now the main supporter of his son and successor, Mahamat Idriss Déby, have been rejected by the electoral agency responsible for organizing the legislative and local elections of December 29, 2024. Among them is the Secretary General of the MPS, Mahamat Zen Bada. Meanwhile, in the United States of America, U.S. President-elect Donald Trump is on his way to the White House to meet with outgoing President Joe Biden. The traditional meeting in which the pair will discuss the transfer of power comes as Senate Republicans vote on their next leader. In the meantime, Trump has appointed Elon Musk and Republican Vivek Ramaswamy to jointly lead a new Department of Government Efficiency. Pete Hegseth, a Fox News host and Army veteran, has been picked to be Defense Secretary, and John Ratcliffe as head of the CIA.
Parole aux urnes au Somaliland, plus d'un million d'électeurs désignent depuis ce matin le prochain président de la République parmi trois candidats en lice, dont le président sortant Moussa Bihi qui vise un deuxième mandat. Et puis législative au Sénégal, les tensions cèdent la place à un vent d'apaisement après l'appel au calme de Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, parti au pouvoir. Appel au calme qui fait suite à un précédent appel à ses sympathisants à se venger d'éventuelles agressions d'opposants politiques en cette période de fin de campagne électorale électrique. Avant de clôturer cette session d'information, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du ministre des Finances qui porte à la connaissance des contribuables relevant du régime fiscal des organisations à but non lucratif qu'en application de l'acte uniforme de l'ORADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif, la Direction générale des impôts, en partenariat avec les ordres nationaux compétents en matière de comptabilité et de fiscalité, a mis en place de nouveaux modèles de déclaration statistique et fiscale spécifiques électronique au OBNL. Ces nouveaux formulaires sont dès à présent accessibles sur la plateforme en ligne de l'administration fiscale à l'adresse www.impots.cm. Et en vue de faciliter le respect des échéances fiscales, le ministre des Finances invite l'ensemble des OBNL à procéder à la soumission de leur déclaration fiscale pour l'exercice 2023 au plus tard le 31 décembre 2024 via la dite plateforme. De plus, le ministre informe le public que l'administration fiscale poursuit activement les sessions de formation dédiées à l'utilisation de ces nouveaux modèles de DSF. Il encourage vivement les OBNL à se rapprocher de leur centre des impôts de rattachement pour toute demande d'assistance ou pour obtenir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le ministre des Finances réaffirme également son engagement à soutenir les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et compte sur le civisme de tous.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanzi Wilai and Larissa Enganin under the supervision of the editor-in-chief, Florence Muke. Thanks for listening.